Et Petit Bateau, tout de suite, Noël Bréham, bonne soirée.
Bonsoir, comment allez-vous? Bon, ça commence à être la der pour les vœux. C'est curieux qu'on attende le dernier moment. Pour les impôts, je comprends. Mais les vœux, c'est sympa. Sympa, mais pas facile. On veut dire à des gens qu'on ne voit plus trop qu'on tient à eux. Pour maintenir le lien, on échange des nouvelles. Mais que donner comme nouvelles? J'ai eu un cancer, maman est morte. Pas très yop-yop, comme dit Marjorie. Alors plus joyeuse. Tristan a sauté une classe, nous prenons des cours de tango. Ceux que ça intéresse le savent déjà et les autres ils s'en fichent complètement. Ou alors personnel, je suis tombée raide dingue amoureuse d'un fabricant de pizza. Il est trop drôle, il a un labrador et un castor. Et puis il y a les vœux professionnels. Exit maman, le tango, le pizzaïolo. Bonne année ne veut plus dire je pense à toi, mais pensez à moi. Je bosse bien et pour le prouver, j'envoie une carte géniale, originale, drôle, profonde, puissante, savante. Ouais, bah maintenant, il faut l'écrire, la carte. Montrer toutes ses qualités en quatre lignes, forcément, ça bloque. Alors, la carte attend sur le bureau ses traits d'esprit qui ne viennent pas. Parce que le génie, c'est comme le rire, le sommeil, ça ne vient pas sur ordre, mais sur lâcher prise. Finalement, ne vaut-il pas mieux une carte pas mal qu'on envoie qu'une carte géniale qu'on n'enverra jamais?
Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 10 ans. Et je voudrais savoir pourquoi l'année commence-t-elle un 1er janvier?
Pourquoi l'année commence-t-elle un 1er janvier, Didier Le Fur?
Oh, c'est une longue histoire. Et puis cette date du 1er janvier, enfin du 1er de l'an, a été très variable. En France, au départ, c'était le 1er jour de l'an, était le mois de mars, le 1er mars, ah parce ouais. que c'était le jour de la revue militaire. Ça, c'était à l'époque des Mérovingiens. Quand les Carolingiens sont arrivés, ils ont choisi la date du 25 décembre. La date du 25 décembre correspondait à l'anniversaire du Christ, enfin à la naissance du Christ, et puis aussi à la date anniversaire du sacre de Charlemagne. Quand les Capétiens sont arrivés, eux ont préféré le jour, le samedi saint, c'est-à-dire le lendemain de Pâques, mais cette date variait, en gros, du 22 mars au 25 avril. Et ça, on est resté, grosso modo, pendant presque 5 siècles là-dessus. Et puis, un jour, un roi de France, Charles IX, en 1564, a décidé de choisir le 1er janvier. Pourquoi cette date du 1er janvier? Bah, tout simplement parce qu'on là, on revient avec cet imaginaire de Rome. On est dans cette période de la France qui cherche à construire un empire, qui se rêve d'être le nouvel empire de la chrétienté, puisque à l'époque de la République romaine, le 1er janvier, on fêtait la fête du dieu Janus. Et ce dieu Janus avait deux visages, un visage tourné vers le passé et un visage tourné vers l'avenir et représenté jeune. Et donc du coup, ce 1er janvier, cette fête de Janus correspondait à une sorte de tournant, le passé et l'avenir. Et donc c'était assez symbolique dans l'idée de faire de ce jour-là le jour du nouvel an. D'autre part, c'était une date que les papes avaient déjà adopté depuis plusieurs années déjà, et même Charles Quint, dès les années 1540, l'avait aussi adopté. Et la France était un peu en recul, enfin en arrière un petit peu par rapport à cette nouveauté, et elle qui avait ses ambitions impériales, alors que l'Espagne de Charles Quint, plus de son fils aussi, Philippe II, avait aussi cette dimension impériale, et d'ailleurs avait un empire immense, et bien histoire d'ajuster un petit peu les particularités et de se mettre un peu au niveau, voire même quelquefois de gommer quelques vieilleries, et bien on a adopté ce jour de 1er janvier. Ce jour de 1er janvier, après, c'est généralisé dans toute l'Europe.
Que de changements, en fait, hein?
Oui. Pour cette première... Comme quoi, rien n'est fixé et qu'on peut encore changer de date si on en a envie.
Le dernier livre du docteur en histoire et essayiste Didier Le Fur est édité chez Perrin. C'est Diane de Poitiers, mais il y en a bien d'autres que vous trouverez sur le site des Petits Bateaux. Ce soir, nous allons parler chimpanzés avec Sabrina Elkrieff, nous allons parler météo avec Emmanuel Bocry, écriture avec le policier Patrick Rouget, et tout de suite photo avec le docteur Denis Le Bihan.
Je m'appelle Elias, j'ai 6 ans et demi et je voudrais savoir comment les spécialistes du corps arrivent à prendre des photos de l'intérieur du corps.
Eh bien, bonjour Elias, c'est une très très bonne question que tu nous poses. C'est vrai que ça a toujours été un rêve de voir l'intérieur du corps. Pour voir dans le corps autrefois et encore aujourd'hui, il fallait opérer, ouvrir. Alors le premier à avoir fait des images du corps, c'est Röntgen. Par hasard, en 1895, quand il a découvert les rayons X, il s'est aperçu que ces rayons noircissaient les plaques photo. En fait, ce qui se passe, c'est que les rayons X vont impressionner l'argent qui se trouve sur ces pellicules photo. Et ensuite, il a pris la main de sa femme et il s'est aperçu que quand elle était entre la source de rayons X et ses pellicules photo, eh bien, les os devenaient visibles sur les photos. Les os de sa femme et l'alliance de sa femme. Donc à partir de ce jour-là, il est devenu possible de voir les os du corps en bombardant, gentiment bien entendu, le corps par des rayons X et en mettant de l'autre côté une plaque photo. Donc c'est le principe des ombres chinoises. On va éclairer, entre guillemets, par des rayons X et tout ce qui va être osseux va se transformer en une ombre qui est derrière. Malheureusement, c'est surtout l'os qui interagit avec les rayons X parce qu'il contient beaucoup de calcium. S'il y a de l'air, les rayons X n'ont rien, il n'y a pas d'ombre, vous voyez. S'il y a de l'eau, et la plupart de nos organes sont faits d'eau, puisque 2/3 de notre organisme est fait d'eau, les ondes seront entre l'os et l'eau. Donc les radiologues ont appris pendant des années à distinguer dans ces ombres chinoises, qui sont des radiographies, on appelle ça des radiographies, mais c'est des sortes d'ombres, différents types de contrastes, différents aspects pour reconnaître des maladies. Alors pour les os, c'est très très bien, les rayons X. Par contre, si on veut voir les tissus qu'on appelle mous, donc le foie, la rate, et puis nous parlons pas du cerveau bien entendu, il faut utiliser d'autres méthodes. Alors les ultrasons peuvent être utilisés aussi. Les ultrasons, donc, ce sont des vibrations sonores, mécaniques, qui vont donc pénétrer dans le corps. Les organes vont se mettre à vibrer et réémettre des ondes sonores qu'on va analyser. Et on peut obtenir des images, par exemple, du fœtus. C'est très courant, l'échographie obstétricale est un exemple de ce qu'on peut faire avec les ultrasons. Et puis, les rayons X, on peut à nouveau les utiliser, mais si on les couple à des détecteurs extrêmement sensibles, beaucoup plus sensibles que l'œil humain, qui ne peut distinguer en gros qu'une quinzaine de variantes de contraste, donc avec des récepteurs très sensibles et à des ordinateurs, alors on peut voir plusieurs milliers de différences dans les contrastes des ombres chinoises. C'est le principe du scanner à rayons X. Et là, on peut obtenir des images de l'intérieur du cerveau qui commencent à être extrêmement précises pour voir, par exemple, s'il existe une pathologie, une tumeur ou quelque chose à l'intérieur de la tête sans l'ouvrir. Et puis, il y a l'IRM. Alors, l'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique qui, elle, s'intéresse à l'eau, justement. Ce sont des ondes radio qu'on va utiliser en présence d'un aimant, d'un champ magnétique très intense. Cet aimant va aimanter les molécules d'eau de façon extrêmement fine, hein, faible, on n'en sent rien bien entendu. Et avec ces ondes radio, on va pouvoir lire ou manipuler l'aimantation de ces molécules d'eau et faire des images. Mais là, on voit directement le contenu du crâne, par exemple, c'est-à-dire le cerveau.
Le docteur Denis Le Bihan est membre de l'Institut. Il est directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique. Il a fondé et il dirige Neurospin, qui est un institut de neuroimagerie magnétique à très haut champ.
Prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de bon feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en saurai mieux comment te dire adieu. Te diras-tu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurai mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu. Comment te dire adieu.
Comment te dire adieu, c'était Françoise Hardy.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants nous posent des questions et nous trouvons des savants pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 9 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi nous n'avons pas tous la même écriture. Merci, au revoir.
Bonsoir Lucie, alors nous avons proposé ta question à un spécialiste des papiers. Dites-moi si je me trompe, Patrick Rouget, des faux papiers ?
Oui, des faux papiers, des fausses écritures.
Vous êtes ancien responsable des services de police technique et scientifique au sein de la police judiciaire de Toulouse. Et pourquoi n'avons-nous pas tous la même écriture ? Demande Lucie.
Bonjour Lucie, alors ta question est très très vaste. Je vais y répondre très rapidement en te donnant le plus de détails possible. Quand tu es petite et que tu commences à écrire, tu commences à écrire en tenant ton stylo comme tu veux en général ou en dessinant. Et puis après, tu vas à l'école. Et à l'école, tu as, maintenant ça s'appelle un professeur des écoles, avant, à mon époque ça s'appelait un instituteur. Il va nous faire faire de la calligraphie, c'est-à-dire avec un cahier spécial et des lignes, on va bien tracer nos lettres, les A, les B, etc. Et donc tout le monde va regarder la calligraphie de l'instituteur en suivant des lignes. On va avoir à peu près tous la même écriture. Mais après, tu vas prendre de l'âge, tu vas faire des études, et petit à petit, ton écriture va se personnaliser, parce que déjà, il y a des enfants qui vont écrire de la main droite et d'autres de la main gauche, donc ils vont tenir leur stylo différemment. Il y aura une pression sur le papier différente. Et après, en fonction de tes études, si tu vas très très loin dans tes études, eh bien, il va falloir à la faculté écrire très très vite les cours du professeur, dont tu vas former et forger ton écriture en fonction de la vitesse que tu vas être obligé d'avoir pour prendre tous ces cours. Et tu sais, si tes parents ou toi sont allés voir le docteur un jour, eh bien, son écriture est presque illisible au docteur. Parce que quand il était à la faculté et que les cours sont très importants, eh bien, il a écrit très 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 vite ses cours. Et quand on écrit très très vite ses cours, on sorte des lettres, on en aplatit d'autres et on se fait des petits signes qu'on reconnaît après à la relecture. Donc tous, on va personnaliser notre écriture. Et c'est pour ça qu'à la fin, eh bien, on a des écritures différentes. Par contre, il existe ce qu'on appelle le mimétisme familial ou par groupe. Moi maintenant, mais à l'époque, dans nos campagnes où il y avait l'instituteur à la campagne et que les enfants restaient longtemps avec leurs parents pour les aider aux travaux des champs, etc., ils ne faisaient pas beaucoup d'études et ils gardaient un peu l'écriture calligraphique de l'instituteur. Donc, ils avaient à peu près la même écriture, même si, en comparant l'écriture, alors là, j'en profite pour dire que ce n'est pas de la graphologie, qui est de la comparaison de l'écriture en fonction de la personne et de son moral, mais nous, on fait de la graphoscopie, c'est-à-dire on étudie le tracé de la lettre, ses terminaisons, ses liaisons, etc.
Ce n'est pas une étude psychologique.
C'est pas une étude psychologique. Nous, on fait pas de graphologie. On étudie la géométrie de la lettre. Ça s'appelle de la graphoscopie.
D'accord. Hein,
voilà. Donc, dans ces familles-là, mais de moins en moins, évidemment, ces familles gardaient à peu près la même écriture. Ça, c'est du mimétisme par groupe, hein. Et après, il peut y avoir des mimétismes familiaux ou dans des couples. Eh ben, en fonction, justement, des études suivies ou pas suivies, il va y avoir des enfants qui écrivent un peu comme leurs parents ou dans le couple, un des deux conjoints va écrire un peu comme le mari, comme la femme. Voilà. Mais si on rentre dans le détail, évidemment, on va trouver des différences liées, comme je te l'ai dit, à la pression du stylo, à la vitesse d'exécution, à la tenue du stylo sur le papier.
C'est difficile d'imiter une écriture. C'est drôle ce que disait Patrick Rouget. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Quand on est enfant, on écrit comme un enfant, donc, et on rêverait d'avoir une écriture rapide et déformée. Ça fait classe. Et puis, quand on est adulte et que finalement, quand plus personne peut lire son écriture, on rêverait d'avoir une écriture plus, peut-être plus enfantine et plus claire. Moi, je sais que j'ai l'impression d'écrire super bien et au bureau, on râle parce que, soi-disant, je suis illisible. De toute façon, c'est bien un peu fini tout ça, parce qu'on tape maintenant, on tape des mails, on tape des textos. Moi, j'aimais bien recevoir une lettre et puis reconnaître l'écriture.
Bonjour, je suis Tom Colbert, j'ai 11 ans de Nîmes. Et tous les soirs à la météo, j'entends « pour avoir du beau temps, il faut un anticyclone ». Et je ne sais pas ce que c'est qu'un anticyclone. Merci, au revoir.
Emmanuel Beaucré, ça tombe bien, puisque vous êtes justement météorologiste à Météo France.
Alors bonsoir Tom. Alors les anticyclones, il y a le contraire qui s'appelle les dépressions. Alors on va faire une petite explication avant. L'air au-dessus de nous, il a un certain poids. Et on le mesure ce poids de l'air par ce qu'on appelle la pression. C'est quelque chose qui nous appuie sur les épaules. Alors tu vas pas le sentir sur tes propres épaules. Par contre, si tu as l'occasion de descendre dans une piscine ou en mer, plus tu descends sous l'eau, plus tu as l'impression qu'il y a du poids au-dessus de toi. Bon, bah, c'est la même chose avec l'air. Alors les zones où l'air est très lourd, on appelle ça un anticyclone. Les zones où l'air est très léger, entre guillemets, on appelle ça une dépression. Alors pour nous, météorologistes, c'est très important parce que, en général, Les dépressions ont ce qu'on appelle un front chaud et un front froid, donc c'est une perturbation, ça nous apporte de la pluie, du vent, etc. L'anticyclone, c'est autre chose, mais il ne fait pas toujours beau avec un anticyclone, on peut avoir des brouillards avec un anticyclone. Alors attention, l'anticyclone ne veut pas dire beau temps, ne veut pas dire mauvais temps, c'est simplement ce qu'on appelle nous des grands centres d'action, et ça nous permet aussi de voir comment les vents vont se déplacer, parce que le vent est généré par les anticyclones et les dépressions.
Donc en fait, c'est une histoire de poids de l'air,
de vent. C'est une histoire de poids de l'air sur des très grandes surfaces, et on entend toujours parler de l'anticyclone des Açores,
ouais,
ou la dépression d'Islande. Il n'y a pas un anticyclone toujours aux Açores, mais souvent, il se trouve dans cet endroit-là. Alors nous, en général, dans les bulletins météorologiques, on parle toujours où se trouve l'anticyclone ou la dépression, et on indique dans quel sens ça va aller, parce qu'on va savoir comment la perturbation va se déplacer. Et en général, la perturbation est collée à la dépression. Et les dépressions, elles vont se promener dans l'atmosphère. Et de temps en temps, elles vont rencontrer un anticyclone. Et l'anticyclone, ça fait un peu comme une montagne. Et ça oblige la dépression à se déplacer, à éviter, à contourner. Donc on peut avoir une idée de la prévision du temps à partir de l'endroit où se trouvent les anticyclones et les dépressions. Mais attention, anticyclone ne veut pas dire forcément beau temps.
C'est compliqué, hein. Merci Emmanuel Bocry, ingénieur météorologiste. On a vraiment besoin qu'on nous explique. Je crois que c'est sur France 3 qu'il n'y a plus personne pour expliquer la météo. Mais je ne regarde plus. Du coup, bon, là sur son téléphone, c'est bien quand quelqu'un nous présente la météo. D'abord, quand c'est une fille, on regarde comment elle est habillée. C'est aussi intéressant que le temps. Et puis, je ne sais pas, quand on vous présente le temps, on comprend. Et quand il n'y a plus personne, on ne comprend plus rien. Quelle tristesse! Baxter de Riz sur France Inter où vous écoutez Les Petits Bateaux. Pour nous téléphoner, vous faites le 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Timothée, j'ai 11 ans et ma question ça serait, est-ce que c'est vrai que les chimpanzés utilisent des plantes pour se soigner? Merci.
Dis donc Timothée, tu t'exprimes superbement bien, ma question ça serait. C'est hyper intéressant Sabrina Krief, vous qui êtes une spécialiste des chimpanzés et qui vivez à leur côté, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je remercie Timothée pour sa question, c'est le cœur de mes recherches que je conduis sur les chimpanzés sauvages. Et oui, on s'est rendu compte en fait que les chimpanzés utilisaient des plantes lorsqu'ils sont malades, différentes de celles qu'ils utilisent quand ils sont en bonne santé. Donc grâce à ces observations, c'est-à-dire que tous les matins on se lève, on observe les chimpanzés, on essaye de diagnostiquer les maladies. Donc, ils sont complètement sauvages, ce qui fait qu'on n'a pas le droit de faire d'auscultation, on n'a pas le droit de les toucher, on n'a pas le droit de faire de prise de sang. Les analyses qu'on peut faire, en fait, sont seulement récupérer les crottes et les urines et faire les analyses pour trouver s'il y a des parasites ou bien à partir des urines, comme pour nous, savoir s'il y a des bactéries, etc. Donc, à partir de ces observations, on peut aussi voir si un chimpanzé tousse, s'il a un rhume. Et à ce moment-là, on suit ce chimpanzé et on regarde ce qu'il va manger. Un chimpanzé, en principe, mange principalement des fruits. Parfois, il mange des feuilles, un peu plus rarement des écorces, des tiges. Et donc, moi, j'ai découvert que certains chimpanzés, quand par exemple, ils ont mal au ventre parce qu'ils ont des parasites, ils vont aller consommer une écorce qui s'appelle Albizia grandibracteata. Et c'est généralement un seul chimpanzé du groupe, c'est pas partagé par tous les chimpanzés. Et cette écorce, en fait, en l'analysant, on a trouvé des molécules complètement nouvelles qui n'étaient pas connues. Et on s'est aussi rendu compte que les humains qui vivent à côté du parc, les Ougandais, utilisent aussi cette écorce quand ils ont des maux digestifs, quand ils sont ballonnés ou qu'ils ont des parasites. Et après avoir consommé cette plante-là, les chimpanzés ont moins de parasites digestifs. Donc les vers ont disparu de leur crotte quand je fais après les analyses. Donc ça, c'est très intéressant. On a aussi vu que des chimpanzés qui étaient abattus, affaiblis, qui vraiment n'étaient pas en forme, consommaient des feuilles d'une plante qui s'appelle Trichilia rubescens. Et c'est une feuille qui a un goût amer et qui est vraiment désagréable à manger. Et en faisant l'analyse, on a aussi trouvé des molécules nouvelles qui sont actives contre le paludisme. Et qui plus est, les chimpanzés, après avoir mangé cette feuille-là, souvent y ajoutent de la terre. Et quand on essaye de mimer ce qui se passe quand on mélange de la terre et des feuilles, et qu'après on teste l'activité du mélange, il se trouve que le mélange est plus actif que les feuilles elles-mêmes. Donc non seulement les chimpanzés utilisent des plantes pour se soigner, mais parfois aussi des matières minérales, donc de la terre, qui améliorent les propriétés médicinales.
C'est stupéfiant, c'est extraordinaire, c'est génial. Et de penser que les hommes font la même chose, les hommes du même endroit, du même lieu de vie.
Voilà, ça c'est assez étonnant, c'est-à-dire que il y a une ressemblance dans les plantes qui sont sélectionnées par les humains et par les chimpanzés qui partagent le même habitat. Donc par exemple, certaines écorces sont mâchées pour les maux de gorge, et les humains décrivent vraiment qu'ils ressentent un bien-être directement après avoir mastiqué ces plantes-là. Donc il n'y a pas l'effet d'une préparation. Quand nous, on fait une tisane, ou qu'on broie des plantes et pour les faire devenir des médicaments tels qu'on les connaît sous forme de comprimés. Ça n'existe pas dans la médecine traditionnelle africaine. Souvent, les plantes peuvent être consommées brutes, à l'état brut. Et c'est bien sûr aussi le cas pour les chimpanzés.
Alors, comment le savent-ils? Parce que moi, quand je me fais une préparation à base de plantes, j'ai un bouquin.
Ça fait aussi partie de nos recherches. Donc, ce qui semble à peu près sûr, c'est qu'ils l'apprennent individuellement, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent un goût très différent du goût des aliments habituels, qui sont plutôt un peu sucrés, plutôt agréables. Là, le goût des médicaments est généralement désagréable, amer, astringent, fort. Et puis surtout, ils l'apprennent socialement. C'est-à-dire que quand plusieurs chimpanzés toussent, un jeune chimpanzé qui lui aussi va ressentir ce mal-être va voir que sa mère ou un autre individu du groupe consomme une plante qu'il ne connaît pas.
Il va l'imiter.
Et donc, il va goûter cette plante-là, sûrement ressentir le bien-être, et la prochaine fois, quand il aura les mêmes symptômes, donc il toussera à nouveau, il ira rechercher de nouveau cette plante-là.
Sabrina Krief, vous vous en doutez, est vétérinaire, primatologue, donc maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, et elle a écrit « Les chimpanzés, des monts de la Lune », et c'est édité chez Belin. Vous pouvez retrouver cette émission sur franceinter.fr. Vous pouvez aussi venir faire un tour sur notre site. Vous ne serez pas déçus. Nous nous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, c'est Marjorie Devouc ou Eliane Girard, Jean-Baptiste Audibert, Marie-Claire Matoute, Noël Bréham, Clément Vuillet.